L'eugénisme est l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Bon, il y a d'autres définitions, hein, dont celle de l'inventeur de l'eugénisme, Francis Galton, mais voilà ce que dit Wikipédia. Donc, ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Et si vous allez sur la même encyclopédie, à propos du transhumanisme, on vous dit « Le transhumanisme prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales. » Donc vous voyez que déjà, dans les définitions, c'est assez proche. Wikipédia a oublié un autre but de l'eugénisme qui n'a pas à voir directement avec la génétique, qui est ce qu'on a appelé l'hygiénisme. Et c'est une période où l'alcoolisme et la tuberculose en particulier faisaient des ravages à la fin du 19e. Et l'eugénisme visait aussi donc des actions sur l'environnement social pour favoriser l'épanouissement des personnes, quel que soit leur patrimoine génétique. Donc ça, ça a été oublié, il faut le prendre en compte. Mais on verra que le transhumanisme se préoccupe aussi, pas seulement bien sûr de génétique, mais se préoccupe aussi d'améliorer des individus en leur donnant des propriétés qui ne seront pas héréditaires, que leurs enfants n'auront pas. Donc c'est pas seulement la génétique. Alors, faut faire une très brève histoire de l'eugénisme quand même, puisque c'est le passé du transhumanisme. C'est un mot donc qui est inventé par Francis Galton en 1883. Francis Galton était médecin, il se piquait de statistiques. Il était assez mathématicien en même temps. Et c'est vrai que c'est des médecins et mathématiciens, c'est des gens qui ont beaucoup compté dans l'histoire de l'eugénisme. Et il a inventé ce mot-là en 83, je le disais, mais la pratique est bien plus vieille que ça. La pratique, vous savez que chez les Grecs, déjà, à Sparte en particulier, les enfants mal formés étaient condamné par les médecins. Il y a toujours eu des médecins pour juger de la qualité d'une personne. Même chez les nazis, il y avait des médecins qui permettaient de savoir si les gens étaient dignes ou pas de vivre. Donc, on les emmenait au bord du ravin, on les poussait, et c'était terminé. Donc, c'était de l'infanticide à la naissance. Donc, c'est une pratique ancienne. L'infanticide, c'était la technologie, on pourrait dire. C'est pas grand-chose au niveau technique, mais c'est tout ce qu'on avait pour pratiquer l'eugénisme négatif. Et puis il y avait l'eugénisme positif qui consistait en union sélective à l'intérieur, en particulier des gens de bonne qualité. Et ça n'a pas existé, ça existait dans la Grèce ancienne, ça existait en Égypte, chez les Incas, un peu partout. C'est-à-dire qu'on trouve des traces d'eugénisme dans toutes les cultures. Quelquefois, je dis un peu pour rire, c'est pas drôle, mais que s'il y a un gène partagé par tous les humains, c'est le gène de l'eugénisme. On le retrouve vraiment dans toutes les cultures avec des degrés divers. Bon, je passe très rapidement sur le fait que cet eugénisme-là, il a été combattu par le christianisme. Il a disparu officiellement, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des infanticides, il y a toujours eu des raisons de faire des unions sélectives dans les basses classes et dans les hautes classes. Mais il y a eu un renouveau à la fin du 19e, donc moment où Galton a inventé le mot, à la fin du 19e, c'est-à-dire marqué un peu par l'arrivée des lois de Mendel, un début de compréhension de ce qui allait devenir la génétique. Et puis, au niveau technique, parce que les techniques sont très importantes dans cette histoire, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un grand trou dans l'histoire de l'eugénisme, c'est qu'on n'avait rien inventé. Si, on avait inventé pour les animaux l'insémination artificielle, par exemple, au XIVe siècle pour les chevaux. Mais ça s'est répandu seulement à toute petite dose au XVIIIe, et c'est resté quasiment clandestin, jusqu'à la fin du du XXe. Donc, le renouveau de la génétique a marché en même temps que l'invention d'une nouvelle technique était la stérilisation des femmes. On ne savait pas stériliser les femmes avant, ça date de 1900. On savait déjà stériliser les hommes, puisqu'il y avait des eunuques dans les harems, par exemple, et c'est assez facile. Pour les femmes, c'est de la chirurgie, c'est un peu plus compliqué. Et ça a beaucoup compté pour les technologies mises au service de l'eugénisme juste après. Alors, Galton a créé des sociétés d'eugénique qui se sont multipliés dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Et la théorisation de l'eugénisme à ce moment-là, c'était surtout la dégénérescence résultait du progrès, finalement, du progrès médical et social, puisque les individus mal formés arrivaient à l'âge adulte, pouvaient faire eux-mêmes des enfants, et donc aller faire des enfants souvent mal formés, et que tout ça, c'était pas bon pour les sociétés humaines. C'est pourquoi on est passé assez vite à la stérilisation des individus déviants. Alors, déviants, c'était beaucoup des malades mentaux, mais c'était des sourds, des alcooliques, même aux États-Unis, des opposants politiques. On a un peu stérilisé à tour de bras tous les gens qui étaient déviants au sens large. Et ces techniques-là ont rencontré, c'est ça qui est important, l'unanimisme dans les communautés médicales et scientifiques. Je ne crois pas qu'il y ait eu un seul opposant parmi les personnalités médicales ou scientifiques à cela. Donc c'est quand même assez remarquable. Ensuite, donc là on est dans les années, enfin les premières stérilisations c'est 1907 aux États-Unis. Le nazisme a ajouté à cet eugénisme qui ne visait pas vraiment la race, bien que les eugénistes étaient quand même un peu racistes et craignaient quand même l'émigration de gens qui allaient apporter des, on ne savait pas encore ce que c'était que les gènes, mais du mauvais sang dans nos pays. Mais le nazisme a donc institutionnalisé ce racisme-là. Mais il n'empêche que ce qui a été inventé en Allemagne, les fours crématoires, n'ont pas été inventés pour exterminer des juifs ou des tziganes, mais pour des malades mentaux. Dans les années 30, on a commencé par tuer des malades mentaux en Allemagne. Donc là, c'était un pas en plus. C'était plus de la stérilisation, c'était carrément de l'élimination des personnes. Et donc, ça annonçait bien sûr les drames qui se sont passés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, à cause de toutes les horreurs qui ont été commises par les nazismes, le mot eugénisme lui-même est devenu tabou. À tel point que si vous demandez à des gens à quoi vous fait penser l'eugénisme, tout le monde va vous répondre nazisme. Et vous voyez bien, d'après l'histoire que j'ai brièvement retracée, que l'eugénisme est bien plus ancien que le nazisme, y compris dans le mot lui-même, mais dans les pratiques encore beaucoup plus anciens. Donc, après-guerre, c'était assez tabou, sauf dans les pays qui n'avaient pas souffert du nazisme directement, même s'ils ont souffert de la guerre. Je pense aux pays d'Orient, au Japon, en Chine, à Singapour, on s'est offert des lois eugéniques après la Deuxième Guerre mondiale. C'était les seuls pays qui ont commencé à légiférer à ce moment-là. Par exemple, à Singapour, il y avait ce truc qui est assez étonnant, parce que c'est pas vrai, c'est pas violent. À mon avis, ça n'a pas d'efficacité, mais enfin, ils y croyaient. Ça a été inventé dans les années 60 et ça a duré au moins une vingtaine d'années. Et ça consiste à donner des primes aux gens diplômés quand ils épousent aussi une personne diplômée, et à donner des primes aux gens non diplômés quand ils n'épousent pas quelqu'un de diplômé. Donc tout le monde y trouvait son compte. Sauf la science, évidemment, et la génétique. Mais c'est un truc qui, donc, a été créé dans les années 60 et a fonctionné pendant assez longtemps. Donc, vous voyez, une espèce d'élitisme, comme ça, de classe. Mais la violence était difficile, et l'infanticide, sauf peut-être en Chine, a été refusé dans le monde entier depuis Nuremberg, donc juste l'après-guerre, si bien qu'il a fallu qu'il y ait des nouvelles pratiques moins violentes pour la renaissance de l'eugénisme, qui ne dit pas son nom, puisque le mot aujourd'hui n'est pas employé. Mais j'essaierai de vous montrer que c'est tout à fait dans la lignée de ce qui existait avant. Cette négation de l'eugénisme classique, elle se base sur la libre acceptation des actes. C'est-à-dire, on dit, dans l'eugénisme, c'était obligatoire. On stérilisait des gens sans leur demander leur avis. C'est pas tout à fait vrai, on demandait l'avis des familles. Aujourd'hui, pour éliminer un fœtus mal foutu dans l'utérus de sa mère, on demande l'avis des parents quand même, pas du fœtus évidemment. Donc il y a quand même un avis extérieur. Mais la libre acceptation des actes paraît donc contredire l'eugénisme. Et puis il n'y a pas de pilotage par l'État. Il n'y a pas une politique eugénique qui dit on va stériliser les gens comme ci, comme ça. Il y a eu ça dans les années, au début du XXe siècle. Donc aujourd'hui, c'est pas pareil, et l'eugénisme dont je vais vous parler n'a pas ça. Mais pourquoi ce ne serait pas quand même de l'eugénisme et pratiqué dans des conditions nouvelles, historiquement nouvelles? Parce que dans les définitions que je vous ai données de l'eugénisme comme du transhumanisme, il n'est pas dit que c'est l'État qui pilote, ou il n'est pas dit que les gens devront donner leur consentement, ou devront pas le donner. Donc c'est quelque chose qui peut très bien être interprété. L'importance, je reprends la définition, c'est l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. On en est toujours là quand même. Alors, ça c'est quand même... Il y a une remarque du Conseil d'État en France en 2009 qui est très intéressante et qui fait valoir que cette idée de libre acceptation des actes et de non-pilotage par l'État qui caractériserait l'eugénisme, c'est pas forcément exact. Parce que, dit le Conseil d'État, s'il y a une politique médicale qui est généralisée à toute la population, avec un choix des patients qui est similaire d'une personne à une autre, alors on arrive au même résultat que s'il y avait un eugénisme d'État, c'est-à-dire un résultat univoque. Par exemple, on va balancer tous les trisomiques 21, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, c'est pas vraiment différent. Donc, vous voyez l'ambiguïté de ce qu'on fait aujourd'hui en refusant de le nommer eugénisme, c'est pas du tout clair. Donc moi je pense que l'eugénisme a connu un renouveau assez récemment avec le terme transhumanisme qui permet de déguiser autrement. Alors même le terme transhumanisme, il n'est pas mal connoté en France, il est mal connu. Aux États-Unis, les gens s'en réclament depuis déjà des dizaines d'années sans que ça pose problème, comme il était arrivé au début du XXe siècle avec le terme eugénisme en Europe. Donc je crois que les gens vont s'habituer au terme transhumanisme de la même façon. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot-là? On dit qu'il a été inventé par Julian Huxley en 1951. C'est le frère d'Aldous Huxley, le romancier. Et Julian Huxley était un biologiste généticien. Donc il a inventé le mot en 51, mais en fait, on peut retrouver la trace de ce mot chez un ingénieur français qui s'appelait Jean Coutreau et qui avait proposé le mot en 1939. Bon, peu importe, vous voyez que c'est déjà, pour ce qui est du vocabulaire, un peu ancien. En fait, dans la réalité, le transhumanisme est né dans les années 60, en Californie. Donc ce mot-là recouvrait une description futuriste, mais n'avait pas encore de réalité. L'eugénisme, donc, je disais, il est aujourd'hui condamné. On n'a pas le droit d'être eugénisme, on peut le dire. Et c'est écrit, par exemple, dans le Code pénal. Dans le Code pénal, il est dit « Le fait de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de... » Donc, c'est interdit. Dans le Code civil, il est dit « Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. » Tout ça est très joli. Mais simplement, tout à l'heure, je vous parlerai du tri des embryons, par exemple, qui tend tout à fait à l'organisation de la sélection, mais ce ne sont pas des personnes, ce sont des embryons. Et vous savez qu'en droit français, l'embryon n'est pas une personne, on ne devient une personne que le jour de la naissance, mais on peut être avorté la veille parce qu'on n'est encore qu'un fœtus et pas une personne. Bon. Donc, le fait quand même de trier les embryons, c'est bien, comme le dit le Code civil, de tendre à l'organisation de la sélection des personnes que deviendront les embryons si on les laisse se développer, ou qu'ils ne deviendront pas si on les élimine. Donc, c'est vraiment une grande hypocrisie que de prétendre qu'on respecte la loi, ne serait-ce que par le tri des embryons. On pourrait dire un peu la même chose avec l'avortement dit médical ou thérapeutique. Là, je ne parle pas de l'IVG, hein. Ou qui est aveugle au point de vue eugénique. On ne sait pas ce qu'on avorte. Une femme veut pas d'enfant, elle avorte. Mais de l'avortement plus tardif qu'on appelle médical ou thérapeutique, donc IMG ou ITG, interruption de grossesse, celui-là se fait sur la base de la qualité du fœtus, base qu'on peut qualifier par échographie, par test chimique, par différents moyens. On ne peut pas nier quand même que là, il s'agit d'eugénique, bien que ce soit chaque fois sous justification médicale. Vous savez qu'aujourd'hui, 96% des fœtus diagnostiqués comme trisomique 21 sont éliminés. Donc c'est quand même une attitude eugénique. Alors on peut bien sûr avoir des positions diverses là-dessus. Moi je suis fondamentalement opposé à l'eugénisme, mais je comprends tout à fait qu'on puisse éliminer de futurs enfants qui seront peut-être malheureux, pas toujours d'ailleurs. C'est d'ailleurs bizarre cette histoire de trisomique 21, parce que c'est sûrement parmi les enfants handicapés ceux qui sont le moins malheureux. Ils ne sont pas vraiment malades, ils sont en général plutôt souriants, ils ne sont pas méchants, ils sont affectueux, alors qu'il y a d'autres pathologies qui sont tellement douloureuses pour les enfants qu'ils deviennent agressifs, impossibles à vivre. Mais ce qu'on élimine en priorité, c'est les trisomiques 21. Bon, c'est comme ça. Moi, je pense qu'on est obligé de tolérer, même malgré la loi, on peut faire exception à la loi pour certaines conditions qui doivent être très très limitées. Et le grand problème, c'est qu'actuellement, ces conditions s'étendent de plus en plus. C'est ce que je vais vous dire après. Et je rappelle ce que dit le Conseil d'État, mais en vous donnant la citation exacte de ce qu'il a écrit en 2009. Donc le Conseil d'État dit que l'eugénisme peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État. Il peut aussi être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l'enfant parfait ou du moins indemne de nombreuses affections graves. Ben, on est en plein dans ce type de société. Société qui recherche l'enfant qui n'aurait pas d'affections graves. Et ce que dit le Conseil d'État me paraît très important parce qu'il souligne que finalement l'eugénisme est interdit mais qu'il est quand même pratiqué. C'est quelque chose sur lequel les juristes pourraient peut-être nous éclairer davantage. Comment est-ce qu'on peut tous les jours avoir un comportement qui est contraire à la loi? C'est quand même assez étonnant. Un petit mot sur l'eugénisme, donc cette pratique qui est interdite, mais qui a une réalité. Donc, historiquement, je vous l'ai dit, parce qu'il n'y avait pas de technologie, c'était l'infanticide. On tuait l'enfant à la naissance quand il était mal foutu. Donc c'était une conformation finalement extérieure. Il ne s'agissait même pas de savoir si c'était un débile mental, puisque c'était juste à la naissance. Et puis il y avait la stérilisation qui tout ça est devenu prohibé après la Deuxième Guerre mondiale. On l'a dit. Alors il y a eu des nouvelles pratiques qui ont été possibles grâce aux progrès entre guillemets techniques. Qu'est-ce que c'est que ces progrès? Ben, c'est la possibilité d'exercer le féticide, c'est-à-dire de tuer les fœtus. Donc j'ai cité tout à l'heure l'interruption dite médicale de grossesse. C'est l'embryocide, donc beaucoup plus précoce, qui succède, qui est directement dans la foulée de la fécondation in vitro et qui permet au laboratoire d'éliminer des embryons sur certains critères et de conserver d'autres embryons puisqu'il y en a plusieurs produits simultanément. C'est le recours à un tiers procréateur avec une sélection sur différents paramètres jusqu'à des paramètres génétiques d'un tiers procréateur dans un couple, donc homme ou femme, mais plutôt homme, c'est plus facile. Donc ça fait aussi partie des technologies nouvelles parce qu'il faut identifier les qualités de ce procréateur, je vais en reparler. Et puis c'est beaucoup plus récemment la possibilité de modifier le génome humain. Donc là, vous pensez tous aux Chinois, on va en dire un mot aussi. Donc tout ça nous donne des possibilités d'un nouvel eugénisme que j'ai appelé mou, démocratique, consensuel et bienveillant. Donc il n'a pas le même aspect que l'eugénisme classique, qui était assez violent, quelquefois méchant, en tout cas pas bienveillant et pas vraiment démocratique. Donc on a affaire effectivement à une pratique qui est assez nouvelle, mais qui dans l'esprit a toujours cette volonté d'améliorer ce qu'on appelait la race humaine et qu'on peut appeler aujourd'hui l'espèce humaine. Dans les années 70, la proposition pionnière de l'eugénisme nouveau, cet eugénisme mou, démocratique, consensuel, bienveillant, ça a été l'insémination artificielle avec donneur. La création des SECOS, les banques de sperme, en 1974, a suivi de quelques années la possibilité de congeler le sperme humain. de le congeler et qu'il survive à la congélation, parce que congeler, on peut toujours le faire, mais il faut qu'il survive. Donc on a su faire ça, ça a permis de monter des banques qui évitaient la rencontre des donneurs de sperme avec le couple qui allait bénéficier de ce don de sperme. Donc en général, c'est le mari qui était stérile et qu'on remplaçait par un donneur. Et ça a été l'occasion, à mon avis, de redémarrer sur une nouvelle façon de pratiquer l'eugénisme. D'abord par la sélection des donneurs de sperme. C'est quand même quelque chose d'un petit peu lourd qu'on connaissait déjà dans le monde animal. La sélection des donneurs de sperme qui, selon les banques de sperme, est faite de telle façon que le donneur anonyme ressemble à l'enfant, c'est-à-dire il faut qu'il ressemble au père. Donc si on a une famille de noirs, par exemple, un couple de noirs stériles, on ne va pas lui donner un donneur blanc, par exemple. Mais il y a aussi les blonds, les yeux bleus, donc c'est l'aspect physique. Mais en fait, ce que ne disent pas les banques de sperme, c'est jusqu'à quel point elles ont perfectionné ces précautions qui datent des années 70, avec les progrès de la génétique récente et la possibilité d'identifier des risques génétiques chez toutes les personnes, y compris les donneurs de sperme. Et personne ne sait aujourd'hui comment les banques de sperme sélectionnent les donneurs. C'est quelque chose qui, en médecine, est absolument insupportable, parce que normalement, les pratiques sont définies et transparentes. Et il se trouve que les banques de sperme, ces fameux sécos, sont complètement hors la loi démocratique depuis le début, depuis les années 70, puisqu'ils ont imposé leurs propres règles, qui ont été ratifiées dans les premières lois de bioéthique en 1994. Les règles, c'est que le don de sperme doit être anonyme et gratuit. Donc gratuit, tout le monde en convient, c'est pas discuté. Anonyme, vous savez qu'aujourd'hui, c'est remis en question parce que les enfants qui sont nés de ces dons, beaucoup se posent des questions. Mais ce qui n'a jamais été discuté, c'est sur quelle base on recrute un donneur. Et alors que la loi pinaille sur un tas de pratiques de laboratoire, de choses, jamais on a demandé aux sécos quels sont exactement les critères qui vous permettent de recruter un donneur de sperme. Et la presse en reste au fait qu'il faut qu'il ait la couleur des yeux et des cheveux comme le père, à peu près la même taille, la même couleur de peau. Bon, mais c'est sûrement pas ça. On peut imaginer que les sécos font autre chose, non pas parce qu'ils sont pervers, mais parce qu'ils sont responsables. Parce qu'à partir du moment où c'est le sécos qui décide de l'identité d'un donneur, il est obligé d'agir en responsabilité et de faire en sorte que l'enfant soit au moins normal. Donc, c'est pas comme quand vous recherchez un conjoint, parce que vous voyez bien que là, ce que les sécos font, c'est-à-dire de sélectionner un donneur de sperme, et je vais y venir après, de l'apparier avec une femme pour faire l'insémination, c'est quelque chose qui ne se pratique pas dans la vie courante quand on n'a pas besoin des médecins. Quand on est capable de faire un enfant tout seul, qu'on choisit un partenaire, on ne lui demande pas un pédigré avec analyse génétique. Donc, il y a un pas en avant qui est fait, et qui n'a rien à voir avec la motivation du couple qui vient, parce que le sperme n'est pas fécondant. Donc qu'on prenne un homme avec sperme fécondant pour remplacer le mari défaillant, c'est normal. Mais tout ce qui est fait en plus, c'est fait en plus, et ça mériterait quand même un examen et une vraie discussion éthique qui n'a jamais été menée. Donc ça, c'est le premier pas des sécos, la sélection du donneur. Mais le deuxième pas, c'est qu'une fois que les donneurs sont qualifiés de bons pour le service du sperme, parce que aussi il faut que leur sperme résiste à la congélation, on teste tout ça bien sûr. Eh bien, le deuxième pas, c'est quel donneur on va utiliser pour tel couple, c'est-à-dire pour telle femme receveuse du sperme. Et là, il y a ce que les sécos sont apparemment appelés l'appariement des couples reproducteurs. L'appariement des couples reproducteurs, c'est une expression qui figure dans un article des années 80, écrit par le fondateur des sécos, Georges David, qui est décédé la semaine dernière, académicien de médecine. Donc, il pratique l'appariement des couples reproducteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu ce qu'on a fait chez les bêtes, chez les bovins, chez la volaille, chez un peu toutes les bêtes d'élevage, où on va essayer d'avoir un produit animal, ou là un produit humain, qui soit de la meilleure qualité possible, en évitant, comme il y a toujours des défauts chez tous les individus, en évitant de multiplier les facteurs de risque qui serait présent à la fois chez le géniteur mâle et chez le géniteur, chez la génitrice femelle. Donc, si je reviens à l'espèce humaine, ça veut dire qu'on va faire des enquêtes sur la famille de tous les donneurs de sperme, des enquêtes sur la famille de la femme qui demande un don de sperme, et que chaque fois qu'on va trouver une pathologie qui existe déjà chez un donneur, ben on ne va pas prendre ce donneur, de façon à ne pas redoubler le risque que l'enfant ait cette pathologie. Ça paraît de bon sens, mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose que vous faites quand vous choisissez un partenaire pour créer une famille. Donc c'est quand même un plus qu'offrent les Sécos, et il serait intéressant, puisqu'ils font ça quand même maintenant depuis plus de 40 ans, de savoir quel est le résultat. Est-ce que c'est vraiment une idéologie eugénique gratuite qui les a inspirés, ou est-ce que ça a un fondement scientifique ou médical? C'est-à-dire, est-ce que les bébés nés des banques de sperme sont de meilleure qualité que les bébés qui sont nés dans un lit, qui ont été fabriqués dans un lit? L'enquête, à ma connaissance, n'a pas été faite, mais ce serait intéressant. Donc, vous voyez, moi, je crois que c'était la première pratique médicale de l'après-guerre qui a permis un renouveau de l'eugénisme qui, comme je le disais, est consensuel, puisque personne ne s'élève contre ça, sauf l'anonymat du géniteur, mais on pourrait dire que c'est presque un épiphénomène. C'est bienveillant, le but est d'avoir un enfant de la meilleure qualité possible, et c'est pas vraiment violent. Donc c'est le nouvel eugénisme qui était apparu là. Ensuite, il y a eu d'autres techniques un peu plus sophistiquées, parce que je l'évoquais, l'insémination artificielle, c'est vraiment une technique qui n'est pas plus bête, hein. Il s'agit de pousser un tuyau dans un vagin. Donc c'est quelque chose que les gens peuvent faire tout seuls. C'est d'ailleurs, à propos, tout à l'heure, vous avez évoqué ma position sur la PMA pour toutes, puisque la PMA, pour moi, c'est la procréation médicalement assistée. C'est la fécondation in vitro et c'est l'insémination artificielle, avec toutes les variantes qu'elles peuvent avoir. Mais aujourd'hui, le terme PMA, c'est devenu synonyme d'insémination artificielle, avec donneur. Donc c'est ce qu'on appelle l'IAD, insémination artificielle avec donneur. Eh bien, moi, ce que je conseille aux femmes qui ont besoin d'un donneur de sperme parce qu'elles sont lesbiennes ou parce qu'elles vivent seules, c'est de le trouver et de s'auto-inséminer et de faire ça éventuellement en groupe. Voilà, il n'y a pas besoin du corps médical pour pousser un tuyau dans un vagin et y déposer quelques gouttes de sperme. Donc on peut éviter un rapport sexuel et on peut avoir un taux de fécondité. C'est ce que font les lesbiennes américaines depuis les années 60, avec un taux de succès qui apparemment dépasse celui des gynécologues avec le don de sperme. Donc c'est quelque chose comme ça. Mais évidemment, il faut prendre la responsabilité de choisir un donneur de sperme. Il faut le chercher, donc il y a des démarches assez difficiles. Et prendre la responsabilité de choisir celui-là plutôt qu'un autre et de s'engager dans un contrat avec lui de personne à personne, alors que ce que demandent actuellement les gens qui veulent la PMA pour toutes, c'est que l'institution prenne tout ça en charge. En gros, ce qu'ils demandent, c'est que les blouses blanches fournissent le donneur et le règlement, ce qui est évidemment beaucoup plus confortable. Et on fait passer tout ça pour un acte technique. L'acte technique lui-même, c'est rien. C'est rien du tout. Ce qui est important, c'est le choix du donneur et puis quel accord on a avec lui pour savoir à quel point on pourra éventuellement l'oublier complètement ou au contraire l'inclure dans une famille. Bon. Donc c'est la raison principale pour laquelle je m'oppose à la PMA pour toutes, c'est que c'est une perte d'autonomie de femmes qui pourraient assumer elles-mêmes, mais qui suivent la mode actuelle qui est d'avoir de plus en plus recours à des spécialistes pour faire des choses qu'on pourrait faire tout seul. Alors, il y a donc eu, après ça, quelque chose de beaucoup plus technique, cette fois, qu'on ne peut pas faire dans sa cuisine, qu'on ne peut pas faire tout seul, c'est le tri des embryons, qu'on appelle le diagnostic génétique préimplantatoire. Donc, je vais y revenir. Il y a eu les analyses d'ADN de personnes qui peuvent être des géniteurs, soit déclarés, soit potentiels, pour savoir à quel point ils auraient un risque de transmettre telle ou telle particularité génétique. Et puis le troisième, qui n'est pas encore du tout mis en action, sauf dans des cas exceptionnels comme l'histoire du Chinois, c'est l'OGM humain, qu'on peut appeler l'HGM, l'humain génétiquement modifié. Alors on va passer en vitesse sur ces trois points. D'abord le DPI, donc le diagnostic préimplantatoire. Il est autorisé depuis la première loi de bioéthique de 1994. Il consiste à prélever une ou deux cellules sur un embryon donc âgé de 4 à 6 jours après fécondation in vitro, prélever ces cellules, en faire une analyse génétique Penser que, on a toute chance de penser, que l'embryon a des cellules identiques, c'est pas toujours le cas, c'est pour dire, généralement c'est comme ça, mais il peut y avoir des différences entre les cellules embryonnaires qui se régulent progressivement. Donc il peut y avoir des erreurs aussi commises avec ce diagnostic. Mais en général, si on fait un diagnostic, une recherche par exemple de mutation dans une cellule prélevée chez un embryon, on peut penser que si on laisse l'embryon vivre, il aura cette mutation, si on l'a trouvée dans la cellule. Bon. Donc c'est quelque chose qui est autorisé par la loi pour les porteurs, pour les individus qui sont porteurs de pathologies d'une particulière gravité, dit la loi, et sans traitement au moment du diagnostic. Ça fait faire un pas à la procréation médicalement assistée qui jusque-là n'était admise que pour les couples dits stériles ou infertiles. Là, il ne s'agit pas de gens stériles. C'est des gens qui pourraient faire un enfant et qui, d'ailleurs, la plupart du temps, en ont déjà fait. C'est pour ça qu'ils savent qu'ils sont porteurs d'une tare génétique et ne veulent pas que l'enfant suivant porte la même mutation. Donc, ils demandent à avoir accès à la fécondation in vitro alors qu'ils sont fertiles, dans le but de faire ce tri des embryons, ce qui paraît assez logique, mais qui, évidemment, ne peut pas être limité, parce que quand la loi dit une pathologie d'une particulière gravité, elle ne dit rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire, une particulière gravité ? Je cite souvent l'exemple en Grande-Bretagne, qui est un pays hautement civilisé, qui a inventé la fécondation in vitro et le tri des embryons. En Grande-Bretagne, on peut trier ses embryons quand on souffre d'un strabisme grave, c'est-à-dire qu'on louche de façon assez grave. On a trouvé un gène qui est lié au strabisme, on peut l'identifier chez des adultes, mais aussi chez des embryons, et un couple qui souffre de ce strabisme peut aller à l'hôpital, obtenir une fécondation in vitro et un tri des embryons pour ne pas avoir d'enfants qui louchent. Bon, je ne crois pas que ce soit très agréable de loucher de façon grave, parce que là, il s'agit d'un strabisme qui, même multi-opéré, laisse encore des traces, et que les gens dans la rue vous regardent et tout. Bon, c'est sûrement pas très agréable. Mais est-ce que c'est ce qu'on peut appeler une maladie d'une particulière gravité ? Alors, ça se passe en Grande-Bretagne, hein, ça se passe pas au fond de l'Asie. Donc, vous voyez que c'est très près de nous. Et ça montre bien que ça veut rien dire, particulière gravité. Et c'est pourquoi, moi, dès 1986, dans un bouquin que j'avais écrit qui s'appelait « L'œuf transparent », ça veut dire « on va regarder dans l'œuf et on va trier », je prévoyais l'arrivée de cette technologie qui n'existait pas encore, qui est arrivée 4 ans après, en 1990, en disant on ne pourra pas l'arrêter. Et là, ça va être le tri sur tous les types de facteurs possibles. Alors en France, on a créé quand même des institutions d'éthique locales dans tous les lieux où on peut pratiquer ces technologies-là et qui permettent d'avoir un certain recul par rapport à n'importe quoi qui se passe dans d'autres pays. Malgré tout, il y a des déviations. Et rien que pour prendre le cas de la France, depuis les années 2000, donc vous voyez, ça fait déjà longtemps, à l'initiative d'un des centres de DPI, il y en a quatre aujourd'hui en France, celui de Strasbourg, eh bien, on a éliminé des embryons pour des risques de cancer, c'est-à-dire des risques de pathologie. Tout ça parce qu'on a trouvé des risques, vous savez, les BRCA1 et 2, des risques de mutations génétiques. On a trouvé des mutations génétiques qui augmentent le risque de cancer des porteurs. Donc cancer du sein, de la prostate, de l'utérus. Et pour éviter ça, on va éliminer les embryons qui portent ce mauvais gène. Comme ça, on diminuera le risque de cancer. Je dis bien, on diminuera le risque. On n'est pas dans la situation antérieure où on éliminait des embryons qui étaient porteurs de gènes de mucoviscidose, de myopathie, bref, de maladies dites monogéniques, causées par un seul gène, avec un certain automatisme. Tous les embryons et tous les adultes qui portent cette mutation vont avoir la maladie. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un risque de pathologie, c'est-à-dire de n'importe quoi. On a tous, non seulement des risques de maladies graves, mais des risques aussi de maladies plus ou moins graves. Et si on analyse le génome de tout le monde, j'y reviendrai après, on va évidemment trouver des facteurs de risque. Donc quand on introduit cette notion qu'on peut éliminer un embryon, non pas parce que les parents portent un mauvais gène, mais parce qu'ils portent un ou plusieurs gènes qui vont augmenter la probabilité que l'enfant soit atteint d'une maladie, vous voyez qu'on a fait un pas considérable qui nous mène finalement à une sélection inépuisable. On va sans arrêt, chaque fois qu'on aura fait des progrès en génétique, on ajoutera des risques de pathologie sur la liste et on ne s'arrête plus. Donc là, je crois qu'on est vraiment dans l'eugénisme, on ne peut pas dire autre chose. Donc ça, c'était donc si les parents étaient porteurs, soit d'une pathologie, d'un gène de pathologie, soit de risque de pathologie, vous voyez qu'on fait des pas en avant, mais est arrivé plus récemment, depuis quelques années, la proposition traîne, lancée par le comité d'éthique de l'INSERM, reprise par l'Académie des sciences et l'Académie de médecine, puis par le comité national d'éthique, dont on pensait que la préoccupation était plutôt la précaution, eh bien, de ce que j'ai appelé le DPI opportuniste. C'est-à-dire, on va profiter du fait qu'un couple qui, effectivement, a un gène de pathologie grave, va faire une fécondation in vitro sans être stérile. On va rechercher ce gène. Mais ce serait idiot de ne pas en profiter pour rechercher d'autres pathologies, et en particulier la trisomie 21. Et on peut dire toutes les anomalies de nombre des chromosomes. Là, on n'est pas dans les mutations génétiques, on est dans le nombre de chromosomes. Donc, on va les rechercher à la même occasion puisqu'on fait un examen. Ce n'est pas tout à fait les mêmes techniques, mais enfin, la loi a l'air de se foutre de ça. Or, c'est ça qui était proposé, je vous l'ai dit, par les académies, par des comités d'éthique, a été repris la semaine dernière dans le rapport de Jean-Louis Touraine, rapport de la commission parlementaire pour la révision des lois de bioéthique. Donc c'est tout à fait récent. Je dis la semaine dernière, c'est peut-être celle d'avant, mais enfin c'est tout frais. Alors ça n'est pas encore dans la loi, mais vous voyez que toutes les institutions à la fois éthiques, médicales et politiques concourent à demander ça. Donc on va avoir dans la loi l'introduction de ce petit plus. Quand on fait un DPI, donc un tri d'embryon, pour une cause de mutation génétique, on va en profiter pour rechercher une pathologie causée par un nombre anormal de chromosomes, et on vise évidemment surtout les trisomies 21, puisque je vous le disais, 96% de ces trisomies sont éliminées à l'état fœtal, mais c'est encore mieux de les éliminer à l'état embryonnaire. Donc on éviterait les avortements, il y a plein d'arguments, on peut faire des discours là-dessus. Il n'empêche que ça veut dire qu'il n'y en aura plus aucun qui passera le cap, et que évidemment, la chose étant rentrant dans la loi, on va l'élargir à d'autres choses, sans compter qu'il y a des trisomies, donc un chromosome en plus, ou des monosomies, un chromosome en moins, qui posent toujours des petits problèmes, mais ne sont pas très graves. Par exemple, vous avez les anomalies de nombre des chromosomes sexuels, 3 chromosomes, un X0, 3 Y, il y a plein de combinaisons avec les X et les Y, qui ne sont pas le XY normal ou le XX normal, eh bien ça donne des pathologies, les syndromes de Turner, de Klinefelter, qui posent des petits problèmes, en particulier les femmes qui ont le syndrome de Turner, elles sont stériles. Mais il n'empêche qu'elles vivent longtemps, elles ne sont pas très finaudes, en général elles ont un QI inférieur à la moyenne. Syndrome de Klinefelter, je ne crois pas qu'il y ait de problème intellectuel, mais c'est des individus qui sont peut-être un peu plus fragiles. Mais bref, ça n'a rien à voir avec la trisomie 21, qui est un véritable handicap. Donc vous voyez qu'on met dans le même pot les anomalies de nombre des chromosomes et que progressivement, on élargit les conditions pour faire qu'un embryon ne peut pas parvenir au statut de personne humaine, alors qu'actuellement, il y a des personnes humaines qui ont ces pathologies-là et qui existent avec un statut de personne. Parce que je dirais, si on fait ça, et certainement que la loi va l'approuver, puisqu'il n'y a pas d'opposition à ça, sauf qu'il y aura encore les catholiques intégristes. C'est terrible que je me retrouve toujours avec les catholiques intégristes, en étant complètement athée, mais en raison, et pour des points de vue différents. Hein. J'ai trouvé une seule réponse à faire un jour, je crois que c'était un cardinal, une éminence, qui discutait avec moi, en gros, pour me disant pourquoi vous n'êtes pas avec nous, pourquoi vous n'allez pas manifester avec nous, pourquoi. Ben, j'ai dit non, j'ai pas. On arrive peut-être à la même conclusion. Je veux pas de l'eugénisme, mais ma base n'est pas la même. Et je vais vous prendre un exemple. C'est que vous, quand il y a le tri des embryons, ce qui vous fait très mal, c'est qu'on mette des embryons dans la poubelle. Pour vous, c'est des personnes humaines. On les jette, on les détruit. Donc on détruit des personnes. Ben, je dis non, moi c'est pas ça. En tant que biologiste, j'en ai détruit des milliers, forcément. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on élise un embryon comme être celui qui doit survivre et à qui on va faire porter tout le poids de la science, de la décision parentale, médicale. Et c'est ça qui me gêne. C'est cette espèce d'élitisme d'un embryon parmi les autres. Donc, on n'a pas du tout la même chose comme raisonnement. Mais c'est vrai qu'on arrive à la même conclusion. Le DPI est forcément une pratique eugénique. Bon. Alors, avec ce truc-là, pourquoi est-ce qu'on se limiterait aux trisomies ? Ce sera pour le coup d'après, la prochaine révision des lois dans 5 à 7 ans. Bien évidemment, on va y ajouter d'autres risques, avec le même argument, en disant c'est idiot de faire ensuite des avortements, ou bien d'avoir des enfants qui naissent et qui ne sont pas heureux parce qu'ils sont malades, il vaut bien mieux les éliminer dans l'œuf. Donc, on peut élargir tout ça. Or, comme aujourd'hui, on fait déjà du DPI pour des gens fertiles, depuis déjà longtemps, c'est autorisé depuis 1994, pour des gens fertiles, que les gens stériles qui font la fécondation in vitro ne sont pas tous stériles. J'ai écrit quelque part que à peu près 30% des fécondations in vitro sont faites pour des gens qui ne sont pas stériles, mais qui sont réputés stériles, sans qu'il y ait aucun examen médical qui le démontre, mais on augmente un petit peu la clientèle. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de limite là-dedans. Et d'abord, pourquoi est-ce que tous les couples ne passeraient pas par la fécondation in vitro ? Finalement, c'est ça le but de l'affaire. Tous les couples passeraient par la fécondation in vitro et le tri des embryons pour qu'on ait enfin une population saine dont on a rêvé depuis longtemps. Alors évidemment, pourquoi tous les couples ne passent pas par la fécondation in vitro ? Bah, parce que c'est pas marrant, parce que c'est un parcours du combattant, pas parce que ça coûte cher, parce que ça, je prévis que la sécurité sociale qui rembourse les actes y trouverait son compte, parce qu'on éliminerait effectivement la plupart des pathologies de l'enfance qui coûtent une fortune. Les enfants handicapés, ça revient très cher. Mais finalement, ce qui peut changer, c'est qu'on produise les embryons autrement. C'est-à-dire qu'on n'est plus ce qui est décrit actuellement comme la pratique de fécondation in vitro. Et là, très brièvement, j'évoque ce travail de japonais qui a été fait, qui a été publié il y a 2 ans déjà, qui est un truc extraordinaire d'un point de vue biologique et dramatique d'un point de vue éthique, c'est qu'on peut fabriquer des gamètes, des spermatozoïdes ou des ovules, à partir de cellules banales, des cellules de la peau. Alors, c'est fait chez la souris, pour le moment. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que on peut avoir d'une part... Alors, on peut, chez la souris, on peut donc fabriquer des spermatozoïdes ou des ovules avec des cellules de la peau. On peut ensuite les mettre en fécondation pour obtenir des embryons, transplanter ces embryons, obtenir assez rarement, parce que c'est les prémices d'une technologie, donc ça ne marche pas beaucoup, mais la faisabilité est démontrée, sont ainsi nés des souriceaux qui ont grandi et qui eux-mêmes ont été capables de faire des petits. Donc ça marche. Je disais, c'est une révolution biologique, parce que j'ai appris, comme tout le monde, qu'il y avait 2 lignées cellulaires chez tout individu, animal ou humain. C'est le soma et le germen. Le soma, c'est toutes les cellules du corps. Le germen, c'est la lignée qui va donner soit des spermatozoïdes chez l'homme, soit des ovules chez la femme. Et ces 2 lignées sont complètement indépendantes. Elles sont donc séparées dès l'œuf et on ne peut pas passer de l'une à l'autre. Et ben voilà que les Japonais ont montré qu'on peut. Ils sont partis de cellules somatiques, des cellules de la peau. Ils ont obtenu des cellules germinales, des gamètes. Donc, au point de vue biologique, c'est fascinant. Mais au point de vue bioéthique, c'est assez grave, parce que ça veut dire que si on a des centaines d'embryons, et pourquoi pas, si on peut reproduire ce truc, je vois pas pourquoi, jusque-là, tout ce qu'on a su faire chez la souris, on a su le faire chez tous les mammifères, y compris l'homme. Donc c'est simplement une question de vouloir le faire, et je pense qu'il y aura certainement des volontés. À partir du moment où on fait ça, il n'y a plus besoin de subir la fécondation in vitro. C'est-à-dire que les couples ne vont pas subir tous les examens gynécologiques, les prises de sang, les injections d'hormones, les échographies, non, il n'y a plus besoin de ça. C'est finalement l'embryologiste au laboratoire à qui on va donner des cellules de peau, alors c'est rien, c'est une petite biopsie, avec quelques milliers de cellules, et puis, avec ça, il va transformer ces cellules en gamètes. Ensuite, il va faire la fécondation, et puis il va avoir un certain nombre d'embryons dont on va faire le descriptif grâce aux nouvelles machines qui permettent d'analyser le génome pour 1 000 euros en 24 heures. Donc c'est des trucs absolument fabuleux, ces progrès-là. Et on pourra donc classer les embryons, en faire une espèce de hiérarchie, avec évidemment l'accord des parents, puisqu'on reste un pays démocratique. Donc Ce truc-là, ce DPI intensif et sans douleur, il n'y a aucune raison qu'il ne se répande pas dès qu'on aura passé le cap de démontrer qu'il n'y a pas de risque, en particulier épigénétique, parce que ça demande des cultures cellulaires de plusieurs mois. C'est quelque chose d'assez difficile. Mais je pense que dans 10 ans, ce sera acquis, et que dans 10 ans, il y aura la queue dans les hôpitaux, parce que les couples, on leur expliquera d'ailleurs, on leur expliquera que ça, c'est une façon de faire un enfant de qualité et de ne pas faire comme faisaient les sauvages avant, de faire un enfant dans un lit, ce qui est toujours prendre un risque. La procréation, c'est une pratique à risque. Donc là, il n'y aurait pas de risque génétique, du moins c'est comme ça que ça peut être présenté. Et ça, je prétends que ça peut changer l'espèce humaine en quelques générations, sans qu'on ait besoin de recourir aux manipulations du génome, puisque vous voyez bien que là-dedans, on ne manipule pas le génome. On ne fait que l'identifier des paramètres, des caractéristiques, et ensuite on garde ou on jette. Donc on va en garder un ou deux parmi 300, 500, 2000, je ne sais pas combien. Et plus il y en aura, plus on est sélectif. Et l'eugénisme a toujours travaillé sur des grands nombres. On ne fait pas de l'eugénisme sur une famille, on fait de l'eugénisme dans une collectivité. On crée là une collectivité embryonnaire, puisque je vous rappelle que ces embryons sont tous différents entre eux. C'est des faux jumeaux, ils sont tous différents entre eux. Alors ils partagent certains gènes, mais ils ont beaucoup de différences. Autrement dit, on a une vraie population pour chaque couple. Et c'est l'idéal, c'est le rêve des eugénistes depuis toujours, d'arriver à une situation pareille. Donc on change d'espèce en quelques générations. C'est vraiment le but du transhumanisme. Donc ça devrait être une de ces pratiques. Étonnamment, ce n'est pas une pratique qui fait partie du catalogue des transhumanistes. Eux, ils parlent de manipulation du génome. Bah parce que c'est tellement simple qu'ils sont tellement tellement technophiles que si ce n'est pas une manip d'avant-garde brillante, bon là, c'est d'avant-garde pour ce qui est des techniques diagnostiques et de la production, de la fabrication de gamètes, mais ce n'est pas aussi spectaculaire que d'utiliser CRISPR-Cas9, on va en parler, pour modifier un embryon. Donc ça ne rentre pas dans leur catalogue, c'est assez marrant. Et j'en ai parlé d'ailleurs avec des transhumanistes, et ils ne connaissent pas ça, ça ne les intéresse pas. Mais moi, ça me paraît être le vrai danger, parce qu'on ne prend pas du tout les mêmes risques qu'avec les techniques de modification du génome, où on est dans l'aventure totale. Bon, on va y venir. Avant de venir à ces modifications, un petit mot sur la médecine dite personnalisée. C'est-à-dire que la médecine qui soignerait les gens en fonction de leur génome. On ne vous donnerait pas les mêmes médicaments, on ne vous les donnerait pas à la même heure, bon, toutes sortes de choses. Et puis, éventuellement, on pourrait pratiquer des diagnostics, ça s'appelle le diagnostic préconceptionnel. C'est quelque chose qui est déjà en place. Ça, vous le savez peut-être pas, c'est en place depuis 2017. Marisol Touraine, ça a été un de ses derniers exploits. Elle a donné 670 millions d'euros pour financer 12 machines qu'on appelle des séquenceurs à haut débit qui vont permettre de faire d'ici 2022 permettre le séquençage du génome, c'est-à-dire connaître absolument le génome dans tous ses recoins, de 18 000 volontaires, donc c'est des personnes volontaires qui ne sont pas des malades, hein, de façon à pouvoir mettre en relation le génome et les particularités du vivant qui porte ce génome, en l'occurrence surtout les pathologies, mais ça pourrait être autre chose. Donc tout ça est en place. Et là-dessus, on ne vous a pas demandé votre avis, ça n'a pas fait partie des discussions du débat d'éthique de l'année dernière. Absolument. Il n'y a ni DPI, ni médecine personnalisée. Ça ne fait pas partie des discussions. Or, là, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. C'est déjà en place parce qu'on a mis l'argent, parce que ça commence à tourner, on achète les machines. Alors, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Imaginez ces 18 000 personnes, on va leur rendre l'analyse de leur génome. Bon, bien sûr, on ne va pas les laisser isolés parce que personne ne comprend rien. Les généticiens vont s'emparer de la chose. Mais comme on va trouver à tout le monde des facteurs de risque, on va trouver de temps en temps vraiment des probabilités de transmission de gènes de maladies graves dont je parlais tout à l'heure, mais chez tout le monde, ce qu'on va trouver, c'est des combinaisons génétiques dont on remarque qu'elles sont liées plus souvent à telle ou telle pathologie. Donc, ça va servir à quoi? Si on vous apprend ça, que vous, par exemple, vous avez, étant donné la conformation de votre ADN à tel endroit, vous avez 72,5% de chances d'avoir la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que vous faites avec ça? ça va être difficile à vivre. Donc ça veut dire que les enfants, les parents, pardon, les gens vont vivre dans l'angoisse, et si ils ont l'intention de procréer, ben, ils vont faire un trait sur la procréation naturelle, ils vont soit adopter, bon, pourquoi pas, c'est finalement le moins bête, soit rester sans créer une famille, soit changer de partenaire, éventuellement, on peut tout envisager, soit, le plus scientifique quand même, comme attitude, le plus sérieux donc, de faire une FIV, une fécondation in vitro, avec un diagnostic préimplantatoire, pour pouvoir choisir parmi les embryons. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui mène assez, assez loin. On pourrait imaginer, pour un peu plus tard, mais pour assez vite à mon avis, des techniques d'amélioration des gamètes. On parle toujours d'amélioration de l'embryon. Mais l'amélioration d'embryon, dont je vais vous parler maintenant, c'est quelque chose d'un petit peu lourd et dangereux. L'amélioration des gamètes serait beaucoup plus facile à pratiquer. C'est-à-dire que chez l'adulte, en particulier chez l'homme, chez le mâle, parce que les gamètes sont plus faciles à approcher, du moins les précurseurs des gamètes dans le testicule, on pourrait modifier ces précurseurs de gamètes, les spermatogonies par exemple, et puis et obtenir des spermatozoïdes qui soient modifiés, qu'on pourra vérifier, dont on pourra vérifier la qualité avant de les utiliser en procréation. Et ça conduira évidemment à une modification de l'embryon. Bien. En tout cas, cette technologie qui est donc en pratique grâce au gouvernement précédent, mais celui-là n'est pas revenu bien sûr là-dessus, ce qui va permettre, c'est des cumuls de données, les big data. C'est sûr que ça va permettre d'apporter ça. Vous savez que les big data, c'est aujourd'hui une friandise, quelque chose de très très recherché par les fameuses GAFA, toutes ces entreprises multinationales qui sont en train de nous amener au transhumanisme. Eh bien, ces données-là, on va en avoir abondamment grâce à ce système. Beaucoup moins que d'autres pays. Hein. Les Américains ont déjà 1 million de personnes qui sont complètement décrites génétiquement. Nous, on en aura 20 000. Bon, mais on va certainement trouver d'autres raisons de faire des descriptions du génome. Donc voilà, je vous ai déjà évoqué donc deux pratiques modernes de l'eugénisme, le tri des embryons, la médecine personnalisée. Je passe maintenant au morceau d'actualité qu'est l'humain génétiquement modifié, qui a provoqué un scandale en Chine, vous le savez, au mois de novembre ou décembre. Ce qu'on a reproché à ce Chinois, ça a été qu'il n'avait pas complètement informé les patients, qu'il n'y avait pas un comité d'éthique qui ait donné son avis, que la sécurité de la manip n'était pas absolue et que l'efficacité n'était pas garantie. C'est ce que j'ai lu. J'ai lu ça sous la plume en particulier des scientifiques. Parce qu'il y a une critique unanime des professionnels de la génétique et de la modification du génome en particulier. Il se trouve qu'il y avait un congrès à Hong Kong au moment où ce Chinois a fait ça et qu'il était invité à ce congrès et qu'il a pu expliquer ses travaux et qu'il s'est fait huer, évidemment. Il est rentré chez lui. Il avait disparu pendant un certain temps. Apparemment, il est pas mort. Bon, il n'est pas mort, mais les Chinois ont critiqué fortement son travail. Et tout le monde, les scientifiques, les éthiciens et les politiques, ont fait la même critique. Critique qu'il n'avait pas informé les gens, qu'il n'y avait pas de sécurité du machin, que l'efficacité n'était pas évidente. Bref, qu'il avait agi trop vite. Il n'y a aucune critique, à part encore celle des catholiques intégristes, pour dire que... Non, c'est quand même... Moi, ça me frappe toujours, ça. Mais il faudrait qu'on arrive à aller un peu plus loin que ça. Bon. Il n'y a aucune critique pour dire il ne faut pas modifier le génome humain. Personne n'a dit ça sauf les catholiques. C'est quand même extraordinaire. Bon, moi je pense qu'il faut savoir mettre une barrière quelque part, et si on commence à modifier le génome, on ne va plus s'arrêter, bien évidemment. Donc personne n'a demandé l'interdiction de ces modifications, alors que là encore, comme pour l'eugénisme un peu plus classique dont je parlais tout à l'heure, elles sont hors la loi. Elles sont en dehors du code civil qui dit qu'on n'a pas le droit de modifier le patrimoine humain. Elles sont hors de conventions d'Oviedo et autres, de différentes déclarations de l'UNESCO, de comités d'éthique nationaux, internationaux. Bref, elles sont hors la loi. Et personne ne dit qu'il ne faut pas le faire. Ce que disent les scientifiques, et ils sont suivis par les éthiciens et les politiques, on ne pourra le faire que quand les scientifiques nous auront dit qu'il y a une garantie sur la technique utilisée. Autrement dit, personne ne met en cause le fondement. Est-ce qu'on a le droit de modifier le génome humain. Et la révision des lois de bioéthique ne parle pas de ça, bien évidemment, mais elle dit incidemment, elle dit qu'il va falloir, c'est le rapport du moins du comité d'éthique, qui va quand même peser cher, elle dit que le rapport du comité d'éthique explique qu'il faut produire davantage d'embryons destinés à la recherche. Alors ça veut dire quoi? Il y a déjà au moins 20 000 embryons donnés par des couples en FIV, qu'on appelle des embryons surnuméraires, qui n'ont pas d'utilité et que les couples ont donné à la recherche. Ils acceptent que les chercheurs les utilisent. Donc il y en a des embryons. Le problème, c'est que ces embryons, ils sont âgés de 2 à 5 jours. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs cellules. Et ils sont congelés dans l'azote liquide, on peut les garder longtemps, mais ils intéressent pas les chercheurs. Ce qui intéresse les chercheurs, c'est des embryons tout neufs, parce qu'on ne peut faire des modifications du génome qu'au stade de la première cellule. C'est au moment de la formation d'embryons qu'on peut modifier le génome embryonnaire, avec beaucoup de chance que toutes les cellules qui vont dépendre de cette cellule initiale vont être identiques et porter la même modification. Si vous intervenez à 4 cellules, il faudrait faire 4 modifications dans chacune des cellules. C'est quasiment impossible techniquement, et surtout, vous aurez des variantes d'une cellule à l'autre, et vous obtiendrez une chimère, quelque chose qui est plutôt inquiétant. Donc, pour pouvoir travailler sur l'amélioration du génome, ce qui n'est pas dit dans le rapport du comité d'éthique, de modifier le génome, il faut avoir des embryons tout neufs, donnés à la recherche. Donc on va les fabriquer au labo pour immédiatement faire la manip au stade d'une cellule. Je ne vois pas à quoi ça peut servir d'autre que de demander des embryons pour la recherche. Donc il y a une certaine hypocrisie dans la demande, mais on voit que tout se met en place pour qu'on puisse mettre au point des techniques qui seront déclarées valides, il faudra peut-être quelques années, et qu'on pourra donc utiliser pour corriger des embryons malades. Au passage, notez qu'un embryon malade, c'est absurde quand on a beaucoup d'embryons. Si vous avez, comme on a actuellement, 5 ou 6 embryons en moyenne en fécondation in vitro, vous en avez toujours, en gros, la moitié, et même plus que ça, qui n'ont pas la pathologie que vous craignez. Cette pathologie n'est pas transmise à tous les embryons. Donc ce serait quand même assez absurde de corriger les embryons malades alors qu'on a des embryons sains et qu'on veut transplanter un seul ou au maximum 2 embryons chez une femme. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces embryons qui vont devenir sains par rapport à cette maladie précisément? Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est bien la volonté de modifier l'embryon en introduisant des qualités qui n'existent pas chez les embryons. C'est ça qui pilote le projet, beaucoup plus que d'obtenir un embryon sain, puisqu'on l'a déjà potentiellement dans la couvée d'embryons produits in vitro. Donc il y a plein de choses comme ça qui montrent que cette idéologie se répand très vite et qu'elle est assez inquiétante. Donc, je le disais, elle se répand vite parce que depuis quelques années, le comité national d'éthique, qui avant était un frein pour ce type de recherche, est aujourd'hui devenu un précurseur qui prône des nouvelles technologies, qui va des fois plus vite que les chercheurs eux-mêmes. Il se passe vraiment des choses tout à fait étonnantes que les académies des sciences et de médecine suivent évidemment, et que maintenant les parlementaires, devant cette unanimité des spécialistes, les parlementaires demandent qu'on passe enfin à l'acte et qu'on modifie la loi. Voilà, pour finir, je dirais que qu'est-ce que c'est que le progrès génétique finalement? Il existe, à mon avis, ce progrès génétique par la découverte de la complexité du génome. Il y a eu un énorme progrès qui a été fait quand on s'est aperçu que la génétique, ce n'était pas les petits pois de Mendel, c'était vachement plus compliqué. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut des centaines, des milliers de gènes et aussi des particules de l'ADN qui ne sont pas des gènes, c'est-à-dire qui ne fabriquent pas de protéines, mais qui, malgré tout, vont contribuer au travail du génome. On sait tout ça aujourd'hui. On sait que c'est beaucoup plus compliqué qu'on a cru, c'est-à-dire on sait qu'on ne comprend rien. Donc voilà un grand progrès quand même de la génétique. La compréhension recule. On pourrait dire ça devrait augmenter la précaution. Mais on voit que ça a tendance à être l'inverse. Et l'autre découverte de la génétique, c'est que finalement ce qui arrive dans le travail des gènes ne dépend pas que des gènes eux-mêmes, mais dépend de l'extérieur des gènes, de l'environnement, ce qu'on a appelé l'épigénétique. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on connaît ça maintenant, il y a énormément de boulot là-dessus, et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que jamais on saura maîtriser l'épigénétique. Alors, on prétendait maîtriser la génomique, maintenant on s'aperçoit que le génome est plus compliqué, et qu'en plus, il y ajoute des facteurs extérieurs qui sont imprévisibles, qui sont n'importe quoi. Ça peut être la température de la cellule d'à côté, ça peut être qu'on a mangé ceci, cela. Bref, on devrait s'apercevoir qu'on est impuissant génétiquement, sauf pour des choses élémentaires telles que les maladies causées par un seul gène. Mais ça y est, on a fait le tour, il n'y en a pas beaucoup, et on en a fait le tour. Donc tout ça devrait nous amener à la précaution, d'autant que les thérapies géniques, pour ce qui est des maladies simples, les thérapies géniques, on ne peut pas dire qu'elles marchent vraiment, contrairement à ce que vous annonce le Téléthon tous les mois de décembre pour collecter 100 millions d'euros. Ça fait 30 ans maintenant qu'ils collectent 100 millions d'euros, ça commence à faire une belle somme. Que ça représente une partie importante, à peu près la moitié du budget de fonctionnement de toute la recherche médicale en France, donc c'est énorme, que ça évidemment influence les recherches des laboratoires vers ce qui intéresse le téléthon et le généthon. Donc il y a une perversion là-dedans, dans la nature même des recherches qui sont menées, parce que ces thérapies géniques, elles sont décevantes, donc on nous cite toujours un progrès imminent dans l'année qui vient si vous donnez beaucoup d'argent, comme si finalement on allait pouvoir maîtriser la nature simplement parce qu'on a des euros. C'est absurde. Il y a plein de choses qu'on ne saura jamais faire. Et je dois dire heureusement. Mais de faire croire que si vous mettez beaucoup d'argent, on va guérir toutes les maladies, c'est se moquer du monde. Bon, ça marche encore un petit peu. Alors, quel est l'avenir finalement de cette génétique-là ? Puisque on voit bien que la thérapie, alors il y a toujours des gens qui vont travailler aux thérapies, bien sûr, hein, mais l'avenir, il est beaucoup plus à établir des corrélations entre le génome et l'identité des personnes, entre le génotype et le phénotype, donc d'établir des corrélations qui n'ont rien à voir avec la causalité, c'est-à-dire que on ne comprend rien. La causalité, ce serait de comprendre que telle particularité de l'ADN, par telle réaction chimique, explique qu'on va avoir telle protéine fabriquée qui va être responsable de telle pathologie. Ce qu'on sait à peu près pour des maladies simples. Pour les autres, on ne sait pas. Il y a des centaines de morceaux d'ADN qui concourent là-dedans. On est incapable de décortiquer les choses. On ne peut faire qu'une corrélation entre le début et la fin. Le début, c'est l'ADN est comme ça, c'est une image. Et puis la fin, c'est l'individu est comme ça, c'est une autre image. On fait une corrélation statistique et on dit aux gens, si vous avez de l'ADN comme ça, ce qu'on va vous démontrer avec le séquençage du génome, vous avez tant pour cent de risque, parce que c'est prouvé statistiquement, que les gens qui sont comme ça ont tel risque, d'avoir telle pathologie, par exemple. Donc, ça, c'est le truc de Marisol Touraine, mais il n'y a pas qu'elle, elle ne l'a pas inventé. Les Américains sont là-dessus depuis longtemps. Les Chinois sont en train de rechercher des gènes d'intelligence depuis plusieurs années déjà, en cherchant dans le génome des gens qui ont un QI supérieur à 160, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de particulier dans leur génome ? Évidemment, ils ne vont pas trouver un gène d'intelligence, mais ils vont sûrement finir par trouver des corrélations entre des morceaux disparates d'ADN qui, combinés ensemble, il se trouve que ça correspond à des gens qui ont un QI supérieur. Bon, pour donner une image, imaginez par exemple que ces corrélations, que cette combinaison d'ADN, elle vous amène à boire plus de café, par exemple. Ce qui n'a rien à voir avec l'intelligence, sauf que l'intelligence vous tient en éveil, et quand vous passez votre test de QI, vous allez peut-être avoir une meilleure note. Je dis ça, c'est complètement gratuit, hein. C'est pour illustrer le fait de la différence entre une causalité et une corrélation. Et là, vous êtes dans un machin qui prend le début et la fin, qui démontre rien, qui n'est pas scientifique du tout, mais qui est mathématique, et voilà, et on prétend qu'il y a un grand progrès. Donc je pense que la génétique va s'orienter de plus en plus vers ces diagnostics préconceptionnels que j'évoquais, vers la médecine personnalisée, et vers le tri des embryons, plus à mon avis que vers la modification de l'embryon, parce qu'avant qu'on soit sécurisé sur ce qui peut arriver à un enfant quand on a ajouté ou retiré un gène à l'état embryonnaire, on prend des risques énormes dans cette manipulation. Et je crois qu'il faudra encore beaucoup de temps pour qu'on en arrive. En gros, tout ça nous amène à un eugénisme nouveau qui est sans limite et qui se pratique déjà, sans le dire, mais avec la caution des institutions. J'ai encore quelques minutes ou pas ? Alors j'ai fait un effort pour vous. Je me suis dit, mais à force de parler d'eugénisme en disant que c'est l'ancêtre du transhumanisme, je vais chercher quand même à voir s'il y a des différences. Alors je vais essayer d'évoquer quelques nuances qu'il peut y avoir. La première, c'est que l'eugénisme, il s'oppose à la dégénérescence des humains qui serait causée par les progrès médicaux et sociaux, et aussi par les migrations. Tandis que le transhumanisme, il refuse la médiocrité intrinsèque qu'il accorde à notre espèce, à Homo sapiens. On est médiocre, on n'est pas bon, donc il faut corriger. Vous voyez qu'il y a une plus petite nuance là. Si bien que l'eugénisme prône le racisme, l'élitisme, alors que le transhumanisme s'adresse plutôt à tous les humains, en niant la ségrégation qui pourrait résulter entre les hommes par le coup des techniques. Ça, il n'en parle pas trop. Mais malgré tout ça, on voit bien qu'il y a quand même une convergence forte, parce que le transhumanisme reprend souvent le thème de la dégénérescence. Souvent, les transhumanismes, je pense à Laurent Alexandre par exemple, disent que si on en arrive à cet état où il faut modifier l'espèce humaine pour l'améliorer, c'est que la médecine a permis à des individus mal foutus de se multiplier. Bon, la médecine, et puis aussi, je pense beaucoup, les aides sociales, les congés payés, par exemple, ça a sûrement permis à beaucoup de gens de survivre. Donc, ils reprennent le terme de la dégénérescence. Donc, on pourrait parler, à propos du transhumanisme, plutôt d'un racisme du gène. C'est-à-dire, c'est pas le gène du noir, du blanc, de... Non, c'est pas... Ça compte pas du tout. Tout individu est potentiellement égal, mais avec des qualités qui sont dans son ADN. C'est ce que nous dit le transhumanisme, qui va au-delà du racisme, finalement, en pratiquant un racisme du gène qui est égalitaire, puisqu'on le pratique chez tout le monde. Donc ça, c'est la première nuance qu'on peut voir. Une autre, c'est que le but de l'eugénisme déclaré, c'est d'améliorer l'espèce. Donc j'ai évoqué l'eugénisme positif et l'eugénisme négatif. Mais c'est surtout, c'était ça, du moins du temps de Galton, dans la Grande-Bretagne victorienne, c'était de préserver l'élite aristocratique. Galton était très imbu de ses origines, et il était cousin de Darwin, hein, je l'ai dit peut-être tout à l'heure. Donc, il voulait préserver cette élite-là. Autrement dit, Galton disait souvent que l'eugénisme, c'est la science de l'amélioration des lignées. Il restait dans les lignées. Il y avait des lignées de minables et puis des lignées des possédants qui étaient forcément des lignées supérieures. Alors que le transhumanisme, il veut augmenter chaque humain grâce aux technologies qu'il mettra au service de chaque personne. Donc, on peut dire que l'eugénisme est un projet pour l'espèce, alors que le transhumanisme est une promesse pour chaque individu. Ça fait une petite nuance. Troisième nuance, l'eugénisme appréhende l'homme comme un animal social. Il vise des progrès du groupe humain, en pensant toujours que l'homme est inscrit dans une collectivité. Le transhumanisme, lui, ne voit l'homme que comme isolé des autres humains et du reste du monde. Et il vise les bouleversements, produire des bouleversements dans les capacités de chacun, chaque homme étant isolé. Donc ça fait quand même une différence entre les deux. Quatrième différence, l'eugénisme n'est pas porté par les technologies. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure de l'histoire de l'eugénisme historique, l'élimination des nouveau-nés, la castration des adultes, les unions favorisées, c'est pas très technologique. Il s'agit de maintenir l'ordre social par des unions au sein des lignées. C'est ça, essentiellement, la morale de l'eugénisme. Alors que le transhumanisme, il survient avec les bouleversements des capacités techniques depuis quelques décennies au niveau de la recherche sur le cerveau, sur le génome et l'informatique. Donc c'est surtout les trois grands domaines qui influencent ça, et il n'y aurait pas de transhumanisme sans ces bouleversements. Donc on peut dire que l'eugénisme est conservateur, puisqu'il veut préserver le meilleur social, alors que le transhumanisme est démiurgique, puisqu'il veut augmenter sans limite les capacités humaines. À ce propos, je note que quand Guillem disait que l'eugénisme est une idéologie scientifique, il parlait bien sûr de l'eugénisme, puisque le transhumanisme n'existait pas du temps de quand Guillem. Qu'est-ce qu'il appelait une idéologie scientifique? C'est dire qu'il utilise le prestige de la science pour légitimer un projet politique. Bah, on doit constater que cette définition s'applique encore mieux au transhumanisme, ce qui montre bien que l'un est la suite de l'autre. C'est une idéologie scientifique. Et enfin, l'eugénisme, il inquiétait parce qu'il prenait des politiques généralisées, imposées, souvent violentes, l'eugénisme historique, hein, je veux dire. L'eugénisme mou d'aujourd'hui, c'est différent. Donc, mais l'eugénisme historique, il était quand même assez méchant. Alors que le transhumanisme, il n'inquiète pas pour les mêmes raisons. Il inquiète parce qu'il conduit éventuellement à une société à plusieurs vitesses, à cause du coût des technologies qui seront proposées, et aussi parce qu'il l'amène à agir comme apprenti sorcier. Là, il ne s'agit pas de favoriser des unions ou de castrer des gens, mais il s'agit carrément de modifier complètement le cerveau des gens, le génome des gens. Bref, que les promesses des transhumanistes sont relativement suicidaires pour l'espèce humaine. Donc il y a des raisons de s'inquiéter de ça. C'est des technologies qui sont aléatoires et qui, pour la plupart, auront des effets irréversibles. Donc on s'engage avec le transhumanisme à changer l'humanité, même s'il est relativement impuissant. Alors, pour finir, pourquoi est-ce qu'il y a ces nuances entre les deux ? Ben, je pense que c'est parce que l'eugénisme s'inscrit dans l'histoire continue depuis le début de l'espèce humaine, hors des bouleversements sociopolitiques, mais qu'il a connu un renouveau à la fin du 19e, parce que, bon, il y a eu les révolutions, il y a eu Marx, il y a eu Proudhon, et puis il y a eu Darwin, et le darwinisme social, qui est complètement étranger à Charles Darwin, lequel a condamné son cousin Francis Galton. Darwin n'a jamais pratiqué, n'a jamais accepté les pratiques eugénistes, et que finalement les aspirations qui avaient lieu en Grande-Bretagne, qui étaient surtout, je l'ai dit, aristocratiques et élitistes, dans l'eugénisme qui s'est développé au début du XXe siècle en Europe et en particulier en France, il y avait plusieurs courants. Il y avait des courants aussi élitistes, par exemple Alexis Carrel, deux fois prix Nobel, et puis des courants qui étaient progressistes et démocratiques, je pense à Jean Rostand, le fils d'Edmond, le biologiste, qui refusait absolument qu'on oblige les gens à accepter d'être stérilisés, par exemple, et que tout devait se faire avec l'accord des gens. Donc, on note que le transhumanisme surgit pour sa part, alors que l'eugénisme, je l'ai dit, s'inscrivait dans une histoire continue. Le transhumanisme surgit d'un seul coup dans les années 60 et un peu plus tard, au moment où l'espèce est menacée avec la bombe atomique. Bon, j'ai pas rappelé là qu'il y a eu une rencontre dans la Silicon Valley entre les informaticiens qui s'installaient et les hippies. Qui était évidemment d'idéologie assez différente et qui craignait beaucoup la fin du monde, la guerre mondiale, et qui se sont dit que grâce au développement de l'informatique, on pourrait démocratiser la connaissance, on pourrait communiquer très loin. Ça leur a beaucoup plu et il y a eu une espèce de convergence qui s'est faite, qui a été récupérée par Google et compagnie, évidemment. Mais il y a eu ça à un moment. Et ce transhumanisme, donc, il apparaît au moment où l'espèce est menacée par la bombe atomique. C'est un moment, on n'en parle plus, mais c'est vrai que ça, on pourrait en parler d'un jour à l'autre, où l'humanité se sentait complètement menacée par une guerre atomique. Donc, ça comptait beaucoup. Il y avait eu le rapport en 1972 du Club de Rome, qui était déjà le début d'une alerte sur les changements climatiques, laquelle n'a fait que se renforcer. Donc le transhumanisme a vécu dans tout ça. Et puis il y a eu l'explosion des technologies que j'évoquais tout à l'heure, l'explosion de la génomique, des sciences du cerveau, de l'informatique, des nanotechnologies. Tout ça a donné au transhumanisme des arguments pour prétendre agir de façon efficace et scientifique pour répondre aux vieux rêves archaïques, puisqu'ils ne datent pas du siècle dernier, mais il date du début des temps, d'être immortel, d'être jamais malade, d'être plus fort. Bref, tout ça, c'est de l'infantilisme archaïque qui, grâce au transhumanisme, semblait prendre une assise scientifique. Donc, avec tout ça, le transhumanisme prétend respecter les droits de l'homme, mais on voit bien que c'est au mépris des législations que j'évoquais tout à l'heure, nationales ou internationales, et que les actions du transhumanisme sont périlleuses pour un droit qui n'existe pas encore vraiment, qui dépasse les droits de l'homme. Il s'agit des droits de l'humanité. Des droits de l'homme, l'homme et la femme, hein, bien évidemment. On devrait d'ailleurs commencer à les appeler comme ça, les droits des humains pour le moins. Mais là, je ne parle pas des droits des êtres humains, des droits de l'humanité, c'est-à-dire en tant qu'espèce homo sapiens, le droit de survivre et de ne pas être modifié. Modifié dans son génome, de survivre tel qu'on est homo sapiens. Donc ça, c'est les droits de l'humanité. C'est pas tout à fait pareil que le droit de chaque individu à être respecté dans sa dignité, lequel est déjà bien réglementé, même s'il n'est pas respecté. Voilà, en conclusion, je dirais que le transhumanisme, de mon point de vue, est bien la continuité de l'eugénisme, et que dans un contexte historique différent, il se nourrit d'une bienveillance qui est un peu obligatoire et de capacités techniques inédites qui font croire qu'il va nous permettre de réaliser nos rêves enfantins. Voilà.